Bonsoir. Donc, une intervention au Sénat la semaine dernière. Le ministre de l'Énergie a affirmé que l'objectif premier du projet INGA 3 est de combler le déficit énergétique sur le territoire national. Avec 4500 MW potentiels exploitables pour la première phase, ce barrage pourra desservir non seulement la RDC, mais des pays voisins, principalement l'Afrique du Sud. Entre-temps, la Banque mondiale invite la classe politique congolaise à accélérer le processus de libéralisation du secteur de l'électricité. Comment analyser le projet INGA 3? La libéralisation du secteur hydroélectrique pourrait-elle avoir un impact dans la desserte en courant électrique en RDC? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 26 mai 2014. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Emery Kalamba, sénateur et vice-président de la Commission des relations extérieures au Sénat. Emery Kalamba, bonsoir. Emery Kalamba, est-ce que vous êtes en ligne?
Oui, absolument, je suis en ligne. Je vous dis bonsoir.
Merci, sénateur. Ingénieur Victor Kendi, ingénieur en génie civil, il est expert en hydroélectricité, ponts et chaussées. Ingénieur Kendi, bonsoir. Ingénieur Kendi, est-ce que vous m'entendez? Je crois qu'on a un petit souci avec la ligne d'ingénieur Kendi. Bienvenue, Marie Bakoumania, directeur des rédactions en charge de l'économie et de l'investigation au groupe des presses Mediaset. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Vous êtes très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Tsongo Robert à partir de Bounia dans la province orientale. Ce projet INGA 3 est très important et intéressant, mais nous craignons qu'il ne profite seulement aux étrangers. Guy Moussengezi, depuis Lubumbashi au Katanga, libéraliser le secteur électrique est une bonne chose pour offrir aux Congolais un courant électrique de bonne qualité et mettre fin au délestage. Cependant, ce serait signer la disparition de la SNEL. Merci de nous suivre par ton RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le ministre de l'Énergie était devant les sénateurs vendredi dernier. Bruno Kapanji devait éclairer le Sénat sur les aspects techniques du traité Grand INGA entre la RDC et la République sud-africaine. Selon le ministre, l'objectif premier de ce projet est de combler le déficit énergétique sur le territoire national congolais. Avec 4500 MW potentiels exploitables pour la première phase dite INGA 3, ce barrage pourra desservir non seulement la RDC, mais des pays voisins, principalement l'Afrique du Sud, lesquels a déjà donné son accord pour l'achat de cette électricité. On écoute le ministre Bruno Kapanji au micro de Mimi Ngumba.
L'importance de INGA 3 basse chute, c'est de donner de l'électricité aux populations, aux administrations et aux industries de notre pays. C'est d'augmenter les taux de desserte en électricité et en eau dans notre pays. C'est important. Si nous ne le faisons pas aujourd'hui, nous n'allons pas connaître une amélioration en desserte en électricité. Le choix de l'Afrique du Sud est un choix stratégique, un choix commercial, un choix financier. D'abord au plan technique. Nous sommes déjà en affaires énergétiques avec l'Afrique du Sud. Vous savez que nous avons une ligne qui relie la RDC et l'Afrique du Sud. Et autrefois, nous étions exportateurs de l'énergie vers l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, nous n'exportons plus parce que nous n'en avons plus. En outre, l'Afrique du Sud est interconnectée avec la Mozambique. Ainsi, nous sommes interconnectés jusqu'au Mozambique. Deuxièmement, sur le plan financier, l'Afrique du Sud, c'est quand même une puissance financière et économique de l'Afrique noire. C'est un client potentiel important qui est crédible, qui est solvable.
Pendant ce temps, la Banque mondiale invite la classe politique à accélérer le processus de libéralisation du secteur de l'électricité afin de permettre aux investisseurs de débloquer des fonds pour le développement hydroélectrique de la RDC. Propos tenus samedi dernier à Kinshasa par le directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC lors de la présentation des réalisations des projets financés par cette institution au Maniema. Pour Eustache Wayoro, la RDC ne doit pas seulement compter sur le projet INGA, étant donné qu'elle qu'elle dispose d'autres opportunités. On l'écoute, ses propos sont recueillis par Emmanuel Elamegi.
La RDC est un pays qui doit être un pays riche, et ça tout le monde le dit. En fait, le défi pour nous tous, c'est ce paradoxe, pays riche. 52% de toutes les eaux d'Afrique se trouvent ici. On a parlé de l'électricité. Il y a 500 sites de production hydroélectrique dans ce pays, sur l'ensemble du territoire, sans avoir besoin d'attendre Tinga. Et c'est pour ça que la nouvelle loi sur la libéralisation du secteur électrique est une loi importante qui va permettre de débloquer de nombreuses opportunités pour ce pays, sans avoir besoin qu'on fasse Tinga en 2022. Et cette loi, il faut qu'elle soit promulguée. Elle n'a pas encore été promulguée. Et je compte sur vous tous pour faire en sorte qu'on puisse la promulguer, pour que ceux qui ont de l'argent et qui veulent produire de l'électricité, parce qu'il y a la matière première. La matière première, c'est l'eau et c'est la pente. Vous avez l'eau et vous avez la pente. Et vous pouvez produire de l'électricité. Et nous sommes prêts à accompagner le gouvernement, à accompagner les opérateurs privés, à créer les conditions pour que ce développement du secteur hydraulique puisse se mettre en place pour que le secteur privé puisse se développer.
Emery Kalamba, je rappelle que vous êtes sénateur et vice-président de la Commission des Relations Extérieures au Sénat. Alors, sénateur, comment vous analysez le projet INGA 3 ?
Ben écoutez, le projet INGA 3, c'est un projet intéressant, évidemment, si on l'insère dans le grand INGA. Comme je crois que ça a été rappelé, le projet lui-même est destiné à produire environ donc 4800 mégawatts, donc dont 2500 sur lesquels en fait l'Afrique du Sud s'engage à acquérir. Je crois qu'il y en a 1300 qui seraient réservés au secteur minier et les 1000 autres seraient donc utilisés par le gouvernement pour pouvoir en fait alimenter la population. C'est vrai que c'est un peu exagéré lorsqu'on dit que 4500 mégawatts, donc c'est INGA 3 va pouvoir améliorer la desserte en fait de la population en électricité, qui est moins de 9%, parce que vous voyez bien que dans la phase INGA 3, il ne resterait que 1000 mégawatts. Si on part du principe que Kinshasa, par exemple, a besoin d'environ 800 mégawatts, il ne reste plus grand-chose pour le Grand Congo. Et là, c'est pour ça que je suis d'accord avec les responsables de la Banque mondiale qui dit effectivement que c'est vrai que INGA, c'est très, très important. C'est une puissance installée de plus de 40 000 mégawatts. Mais je pense que si on veut réellement donc améliorer la desserte en électricité de nos populations, il faut pouvoir en fait développer des micro-centrales ou des centrales moyennes qui se trouvent disséminées à travers tout notre territoire. Et pour revenir en fait à INGA 3, la démarche elle est positive. Positive dans le sens que ici on aurait donc un projet sur lequel un acheteur important qui est l'Afrique du Sud s'engage à pouvoir en fait acquérir presque donc la moitié donc de ce qui sera produit. Mais la faiblesse de cet accord, c'est qu'en fait ce sont des engagements qui sont fort peu contraignants. Vous savez, nous avons donc examiné donc ces textes, on parle plutôt l'Afrique du Sud fera ses meilleurs efforts pour faire ceci, pour faire cela et compagnie. Et je pense qu'à ce niveau-là, on aurait souhaité quand même qu'il y ait un peu plus d'engagement. Et d'ailleurs, nous avons peur que au niveau, quand viendra le moment où il faudra en fait lever les financements pour ce projet, je crains fort que les financiers puissent demander un peu plus d'engagement, plus contraignant de la part de l'Afrique du Sud et d'autres pays.
Alors,
En outre, et pour pouvoir terminer, le reproche qu'on peut aussi faire, c'est vrai que, comme l'a dit le ministre, l'Afrique du Sud est une grande puissance. C'est vrai que l'Afrique du Sud est solvable, mais il y en avait d'autres. Qui dit que, en fait, la meilleure offre qui nous est faite pouvait venir de l'Afrique du Sud? Vous savez que, avant donc INGA 3, il y avait le projet Westcor, qui comprenait donc l'Angola, la Namibie, le Botswana, et je pense que pour la transparence, il aurait fallu qu'il y ait donc un appel d'offres par lesquels en fait ces pays auraient aussi donné la possibilité de pouvoir faire une offre pour pouvoir acheter notre électricité, ce qui nous aurait rassuré quant à la au meilleur prix donc qu'on pouvait obtenir.
Alors, sénateur, voilà. Il y a certains analystes qui estiment que dans ce projet Inga 3, c'est la République sud-africaine qui serait gagnante.
Je ne sais pas, parce qu'en fait, comme je viens de le dire ici, la République sud-africaine, dans le cadre du traité qui a été signé, prend des engagements qui sont peu contraignants. Et je pense aussi, heureusement, que les engagements de la République sont aussi peu contraignants. Ce qui fait que finalement, c'est un peu un marché sur lequel l'Afrique du Sud certainement a voulu pouvoir en fait s'assurer une source d'approvisionnement donc chez nous, mais sans prendre trop d'engagement. Parce que l'Afrique du Sud, si vous lisez ce traité, vous allez voir qu'en fait, elle ne dit pas « je vais acheter », elle dit « je vais fournir le meilleur effort pour pouvoir acheter ». Donc, finalement, ce n'est pas vraiment ce qu'on appelle un véritable donc engagement, et ça pourrait permettre, qui sait, peut-être donc au Congo de pouvoir dire, écoutez, bon voilà, c'est vrai que vous avez donc promis d'acheter, mais ce n'est pas une promesse ferme, c'était plutôt une promesse qui était plutôt conditionnelle, vous allez faire donc vos efforts. Mais sur le plan, si on examine les choses froidement, je ne sais pas si c'est l'Afrique du Sud qui fait donc la meilleure affaire, parce que finalement elle va sur les 4800, elle va prendre 2500 et le Congo pourra disposer de 2300 mégawatts. Donc c'est assez quand même assez équilibré.
Merci sénateur.
En termes de volume.
Merci sénateur Kalamba. On vous garde encore dans cette émission. Ingénieur Victor Kendi, je rappelle que vous êtes ingénieur en génie civil et expert en hydroélectricité, ports et chaussées. Est-il opportun, ce projet Inga 3, est-il opportun aujourd'hui en RDC?
Merci beaucoup, madame. Ce projet-là, c'est un grand projet pour le pays. Il résout des problèmes tant stratégiques que des problèmes de desserte à l'électricité. Mais sa gestion doit être rationnelle. Je crois que mon chef qui m'a précédé, le roi Kalamba, qui parlait, a clairement donné la topographie. Mais ce que je peux dire est que il faut absolument ce projet-là. Et pour des rentrées financières, comme l'a dit son Excellence, Monsieur le Ministre, ça donne au Congo une grande position stratégique et nécessairement, à côté de ça, il y a la Banque mondiale qui a dit quelque chose d'aussi important. C'est que ce n'est pas avec le grand Inga qu'on va résoudre tous les problèmes de la desserte intérieure, mais c'est plutôt par la construction des micro, mini et les barrages intermédiaires. Parce que si on se donnait à ce que grand Inga dessert tout le Congo, les pertes de charges seront énormes et on n'arriverait jamais à amener à destination la quantité d'énergie nécessaire. Ce qu'on peut attendre de Grand Inga, c'est que Grand Inga soit destiné à l'exportation et que l'argent qu'on obtiendrait de la vente d'électricité du Grand Inga serve à la construction des centrales à travers le pays, des petites centrales à travers le pays, parce que c'est avec ces petites centrales qu'on peut arriver à mettre en marche les stations de tirage et de conversion du courant de Grand Inga, parce que ce courant-là ne doit être que sur la version courant continu. Or, la consommation domestique exige le courant alternatif.
Ingénieur Kendi, s'il vous plaît.
Oui, madame.
Il y a une télévision allumée ou une radio allumée à côté de vous. Est-ce que vous pouvez vous déplacer un peu?
Oui, je me déplace parce qu'il y a quelqu'un qui vient de m'envahir avec son mégaphone.
Alors, essayez de vous déplacer parce que ce bruit la dérange un peu.
Allô?
Allez-y, on vous écoute. Oui.
Ok, je disais bien que le courant de Grand Inga peut être destiné à l'exportation. Pourquoi? Parce que c'est un courant qui doit parcourir de grandes distances. Il faut qu'on l'amène sous la forme courant continu. Or, l'utilisation domestique exige le courant alternatif. La conversion du courant continu vers le courant alternatif exigent des stations de conversion et de captage qui, eux-mêmes, pour leur fonctionnement, ont besoin du courant alternatif. De ce fait, il faut alors qu'on construise Grand Yinga pour répondre à la politique stratégique, pour répondre aux gains de ressources qui viendraient de l'extérieur et que ces ressources permettent à la construction de centrales intermédiaires à travers le pays qui permettraient en définitive au soutirage et à la conversion du courant de Grand Yinga.
Alors, ingénieur Kendi, il y a Christian Siebwa Diagoyo qui dit ceci. Je ne pense pas que pour électrifier le territoire national, il faut Yinga 3. Il faut plutôt acheter des transports pour les cabines qui existent déjà, changer des câbles et bien payer le personnel de la semaine. Et là, plutôt bien payer le personnel de la semaine, c'est la plus grande question de l'énergie au Congo. Il faut commencer par réhabiliter ce qui existe déjà.
Yinga, dans sa version, dans sa dimension, ne peut pas être amené dans un village parce que la conversion va coûter trop cher. Mais le Grand Yinga peut être amené dans un autre pays. Il n'y a pas que l'Afrique du Sud. Il y a le Nigeria. Il y a la Libye. Tous ces pays seront tributaires de ce courant si jamais il est là. Aujourd'hui, on peut être dans les projections, mais ce qui est sûr, si ce courant est là, il est moins cher par rapport au courant de sources nucléaires, le Nigeria, la Libye, ce pays-là, s'ils n'ont pas le courant qui viendrait des sources hydrauliques, ils sont condamnés à utiliser le nucléaire. Mais le nucléaire coûte cher. Mais avec le Grand Yinga au Congo, ce pays peut avoir, comme l'Afrique du Sud le souhaite, eux aussi seront appelés à demander ce courant-là. Au départ, il est moins cher, il est propre sans accident, et il n'expose pas les pays ni les populations à des difficultés, et tel serait le cas avec le nucléaire. Donc, c'est une grande potentialité et le pays doit mettre en valeur pour permettre à ceux qui aient de rentrer, et ces rentrées vont aider à ce qu'on puisse construire les mini, donc les centrales intermédiaires mini, micro, à travers tout le pays. Parce que les transports à travers le pays peuvent être trop chers, alors ce n'est pas l'alternative à suivre.
Alors, il y a un autre auditeur, Kariki Anonyma, qui dit pourquoi ne pas, par exemple, résoudre d'abord le problème que connaissent Yinga 1 et 2 avant de se lancer dans le projet Yinga 3.
Eh bien, c'est bien beau, mais moi, je vais leur dire simplement que la planification de Yinga 1 et Yinga 2 n'a pas été rationnelle. Ça, c'est d'abord la première chose. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des ouvrages qui sont construits et que ces ouvrages posent problème. Il y a l'ensemblement excessif en amont du canal, dans le canal d'Amélé. Et c'est ça qui a diminué la puissance de Yinga 1 et Yinga 2. Et encore, c'est cette présence du sable, c'est celle qui cause de panne qu'on constate sur les turbines. Alors, on ne peut pas s'attarder à résoudre le problème qui risque de faire enliser le processus de l'électrification du pays.
Merci.
Disons, il faut qu'on passe à Yinga 3, qu'on connais beaucoup de clients. Je dis que le Yinga 3 doit être excessivement destiné à l'exportation.
Merci, ingénieur Kendi.
Ils doivent permettre la construction de mini et micro centrales à travers le pays.
Merci, ingénieur Kendi. On vous garde dans cette émission, on vous redonne la parole tout à l'heure. Bienvenue Marie Bakoumania. Je rappelle que vous êtes journaliste plutôt... Journaliste, oui, à Télé 7. Comment vous analysez ce projet Yinga 3?
Le projet Yinga 3 est le bienvenu. Il ne faut pas se voiler la face. Ce projet a connu plusieurs péripéties. Le sénateur l'a rappelé, notamment avec le consortium Westcor. Il y a eu également une entreprise, BHP Billiton, qui voulait bien participer à la construction du Yinga 3 pour tirer de l'énergie là-dessus. C'est un projet qui connaît un cheminement difficile. Et l'Afrique du Sud qui vient elle aussi s'impliquer dans ce projet prend des précautions, parce que avec la RDC, le projet Westcor, l'Afrique du Sud y était également, les gens se disent que les Congolais ils signent et demain ils renient leur signature. Certainement, ce sont des précautions qui ont été prises. Mais on se trouve devant une situation telle que l'Afrique du Sud, par exemple, a un déficit énergétique énorme, et que si, c'est pas seulement l'Afrique du Sud, il y a aussi le Nigeria qui lorgne vers le courant de la République démocratique du Congo, il y a même l'Égypte qui lorgne vers cette électricité. Si on y prend garde de ce potentiel de plus ou moins 44 000 mégawatts, c'est un potentiel, ce n'est pas une capacité installée, c'est un potentiel de 44 000 mégawatts qui intéresse tout le monde, si on y prend garde, si nous-mêmes, nous ne prenons pas nos responsabilités pour assumer le leadership de transformation de cette électricité, de cette énergie sauvage en électricité consommable par le monde viendra chercher cette énergie sans notre accord. C'est pourquoi, lorsque vous voyez l'Afrique du Sud débarquer, le président Zuma a débarqué ici en RDC, il a suivi le président de la République à Lubumbashi pour signer l'accord, c'est dire toute l'importance que un pays industrialisé comme l'Afrique du Sud accorde à Inga 3. Et cette importance, nous-mêmes, nous devions aussi en accorder, dans la mesure où le besoin du pays, qui sont chiffrés, selon les experts, à plus ou moins 8000 MW aujourd'hui, ne sont pas couverts convenablement. Et il faut chercher des sources. Je suis d'accord avec l'ingénieur quand il dit qu'il faut qu'il y ait des micro-centrales disséminées à travers le pays pour résoudre le problème des transports. Mais il est aussi important pour la RDC de concevoir un plan qui soit global, qui englobe tout, qui englobe également le transport. On voit aujourd'hui avec la ligne, la deuxième ligne sur Kinshasa, si on était suffisamment regardant et suffisamment projeté vers l'avenir, on aurait souhaité construire des lignes qui vont dans le sens de 2000 mégawatts déjà sur Kinshasa, mais on se contente de ce que la Banque mondiale a proposé au gouvernement congolais, ce qui à la longue, lorsque nous aurons mettre les trains électriques ici à Kinshasa, lorsqu'on va avoir des grandes industries ici à Kinshasa, ce qui ferait que nous serons encore dans l'obligation de construire une autre ligne. Toutes ces stratégies mises ensemble démontrent que le pays n'a pas encore appréhendé le besoin de faire de la RDC une puissance énergétique. Et pourtant, quand on est une puissance énergétique...
Avec ce projet Inga 3, ça pourrait être une occasion pour la RDC.
Vous savez, madame, c'est un projet complexe, gigantesque, imbriqué. Vous avez le génie civil, vous avez le génie en électricité, donc ça ne peut être piloté que par un leadership compétent en matière de conduite de projet.
Est-ce que la RDC manque ce leadership?
En cette période, je ne vois pas, avec notre incapacité à lever des financements sur la place internationale, je ne vois pas comment seule la RDC peut parvenir à conduire à bien ce projet aussi complexe. Tout à l'heure, l'ingénieur, je crois, à Mbujima ou à Kananga, il a dit que Inga 1 et Inga 2 n'étaient pas réfléchis à l'avance. Ben, il a tout à fait raison. Inga 2, il y a des machines qui n'ont pas fonctionné dès le premier jour de leur inauguration. C'est démontré par là que le Congolais, quelque part, a encore du chemin à faire en matière de projets de cette envergure. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas apporter notre pierre à l'édifice. C'est un patrimoine qui se trouve chez nous. Aujourd'hui, si nous arrivons à produire, à transformer le potentiel des 100 000 mégawatts, je crois 105 000 mégawatts qu'on reconnaît à la RDC en matière d'hydroélectricité, nous pouvons revendiquer facilement une place au Conseil de sécurité, comme membre permanent du Conseil de sécurité, parce que nous allons peser suffisamment sur la place internationale. Sans électricité, madame, il n'y a pas d'industrialisation possible. Et lorsque vous avez une source d'électricité comme nous en disposons, nous pouvons nous faire une puissance. Madame, notez également que contrairement à ce que l'ingénieur et même le sénateur ont dit, moi je suis d'avis que la consommation interne peut absorber toute cette production. Il ne faut pas nécessairement orienter la production vers l'extérieur. Le besoin interne, le marché interne est immense. Le marché interne peut absorber, comme je l'ai dit tout à l'heure, la production des Inga 3. Moi je suis même d'avis que si les étrangers, les pays étrangers, nos partenaires veulent bien par assister la République démocratique du Congo, c'est dans la construction des grands Tinga qui demandent énormément de moyens, qui exigent énormément une grande expertise dans la conduite de ce projet. Je pense que nos partenaires feraient mieux de nous aider à la construction des Inga, des grands Tinga. Mais Inga 3, on peut en faire une affaire nationale. Mais même si on a nos difficultés, avec des partenariats publics-privés, il est possible d'opérer des miracles.
Merci, bienvenue Marie Bakoumania, sénateur Emery Kalamba. Inga 3, on peut en faire une affaire nationale. Qu'est-ce que vous en pensez?
De toute façon, Inga 3, c'est une affaire nationale. Et Inga 3 n'est jamais qu'une une phase. Inga 3, simplement Inga 3 n'est pas donc la solution de problèmes domestiques en électricité du Congo aussi, puisque il faut parler en termes chiffres. Vous avez vu que donc il y a 4800 mégawatts. 2500 sont déjà partis pour l'exportation parce qu'il faut financer. Je vous rappelle qu'en fait, ce projet, c'est un projet de près de 14 milliards de dollars. Il faut encore le trouver. Ce n'est pas évident parce que nos partenaires, parfois, ils mettent des conditions de choses pareilles. Donc, même alors, une fois qu'on a fait donc Inga 3, il restera très peu de choses. Donc, 2500 pour l'Afrique du Sud, 1300 pour le secteur minier. Il reste que 1000 mégawatts, en fait, pour les problèmes. Kinshasa a besoin de 800, environ 800 mégawatts. Une fois que vous avez donné 800 mégawatts à Kinshasa, il vous reste plus que 200 mégawatts. Mais vous avez donc Bandaka qui a besoin d'électricité, vous avez Kananga qui a besoin d'électricité, vous avez la province orientale. Donc, ce ne serait pas suffisant. Pour l'instant, c'est pour ça que on dit qu'il faut coupler à la fois l'exploitation d'Inga avec l'exploitation en fait des micro-centrales ou des centrales moyennes. Vous savez, madame, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est très bien de nous faire rêver. Vous savez, un projet gigantesque, il n'est pas le plus grand, mais c'est certainement le projet le plus important au monde. Mais aujourd'hui, lorsque vous avez des projets moyens, vous prenez Kakobola dans les Bambundu, c'est un projet, je crois, de 15 mégawatts et compagnie, on est capable de les mener à bout. Je crois que lors de mon intervention au Sénat, j'ai donné l'information effectivement qu'aujourd'hui sur Kakobola, il n'y a plus personne. Les Indiens sont partis parce qu'il n'y a pas d'argent. Et il y a la même menace sur Katende, qui sont en fait un projet de 60 mégawatts pour pouvoir fournir au Kassai. Donc il y a là un problème. Moi je pense que, vous savez, comme disent les Anglais, small is beautiful, c'est très bien. Rêver de ces Inga nous fait rêver tous sur les capacités. On rêve évidemment d'un Congo qui deviendrait une grande puissance et compagnie, mais tant que nous n'aurons pas fourni d'électricité au gars qui est à Massina, qui est à Katoka, qui est dans les petits quartiers, des Bandaka et compagnie, nous n'aurons pas atteint notre objectif. Et cet objectif-là, à mon avis, il va donc arriver par la combinaison. C'est vrai qu'on peut faire les deux. On peut donc à la fois produire, vendre donc à l'extérieur pour pouvoir nous permettre de construire de petits et moyens barrages à l'intérieur pour permettre en fait à nos populations d'accéder à l'électricité.
Alors, sénateur Kalamba, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani dans la province orientale.
Camille Ouellepel et Lattre, j'appelle à partir de Kisangani, province orientale. La libéralisation du secteur de l'électricité n'est pas une mauvaise chose dans la mesure où elle fera jouer la concurrence entre l'État et les privés d'une part, et d'autre part les privés entre eux. Mais si la gestion du secteur est laissée au seul privé, cela entraînera la hausse du prix de l'énergie pour la consommation domestique, car la gestion de ce secteur par l'État impliquait les tarifs sociaux compatibles aux démunis congolais. Les privés viseront le lucre à tout prix. L'État ne doit pas s'effacer totalement. Il a toujours un rôle important à jouer dans le développement.
Alors, cet auditeur évoque déjà la question sur la libéralisation du secteur hydroélectrique en RDC. Vous avez évoqué ça lors de votre première intervention, sénateur. Il estime que ce n'est pas une mauvaise chose, on voit. C'est pas une mauvaise chose, dans la mesure où elle fera jouer la concurrence entre l'État et les privés d'une part, mais d'autre part, les privés entre. Mais si la gestion de ces secteurs est laissée au seul privé, cela entraînera la hausse des prix de l'énergie pour la consommation domestique.
Non, mais je crois que l'auditeur Xangani a tout à fait raison. Mais quand on dit qu'on libéralise, ça ne veut pas dire que l'État doit en fait s'écarter de ces secteurs. C'est un secteur important, dans lesquelles l'État, d'ailleurs, du reste, les textes sur la libéralisation prévoient que l'État peut toujours prendre une participation dans les concessions. Donc il peut négocier pour garder donc une participation. Et dans les pays comme des pays étrangers, on voit même en France, on voit que l'État continue, les États continuent à jouer un rôle important, notamment dans les secteurs d'électricité, de l'énergie, parce que ce sont des secteurs considérés comme étant des secteurs importants. Mais cela dit, je pense aussi que la libéralisation, en principe, devrait entraîner, de par la loi de l'offre et la demande, une production plus important d'électricité qui devrait voir ses prix baisser. Ça permettrait donc à ce moment-là un plus grand nombre de pouvoir acheter donc cette électricité et donner les moyens donc à ces privés de pouvoir en faire des investissements nécessaires. Mais cela dit, je suis tout à fait d'accord qu'il faut que l'État puisse demeurer dans le secteur, même comme partenaire minoritaire pour continuer donc à peser, parce que c'est quand même l'État qui concède, hein, quand on dit libéraliser, mais c'est pas des concessions.
Merci.
L'État garde quand même donc un moyen de contrôle sur ce secteur, parce que je peux imaginer que si vous concédez, l'État concède à une société X qui pratiquerait en fait des prix qui ne seraient considérés comme prohibitifs, il pourrait toujours se garder donc le droit de revenir sur cette concession.
Merci, sénateur ingénieur Kendi. On va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi au Katanga.
Étudiant Brahimou Ismaïla, depuis la ville de Lubumbashi, Inga 1 et Inga 2 sont capables d'alimenter tous les territoires nationaux, chose qui n'est pas fait. C'est un quart du pays qui a bénéficié l'énergie de Inga 1 et Inga 2. Ce sont les pays voisins qui bénéficient la grande partie de l'électricité de Inga 1 et Inga 2. Cela non pour l'intérêt du pays, mais plutôt pour l'intérêt de nos dirigeants. Alors, que dire de Inga 3? Est-ce que le gouvernement sera en mesure de combler les déficits énergétiques partout dans les territoires nationaux au moment où l'Afrique du Sud a déjà acheté 60% de ces projets de Inga 3. D'autres pays, on ne sait pas. Qu'ils cessent de nous distraire.
Réaction, ingénieur Kendi.
Merci, madame. Merci, cher auditeur. Je l'avais déjà dit. Inga 3 ne sera pas fait pour la desserte domestique. Et il faut que l'argent qui viendrait de Inga 3 serve à la construction des centrales intermédiaires à travers le pays. Lorsqu'on parle de 100 MW de potentialité, ce n'est pas seulement sur le fleuve, mais c'est sur l'ensemble des rivières et les affluents et les confluents du fleuve que nous avons dans ce pays. Donc, il faut que le courant alternatif soit produit dans tous les milieux pour permettre à la population d'y trouver son compte. Le courant continue et difficile à convertir en courant alternatif, et cela reste valable et restera valable pour longtemps. Mais le Congo ne doit pas se priver d'avoir Inga 3, parce que Inga 3 va lui ouvrir beaucoup de portes, va lui donner la grandeur qu'il a besoin au centre de l'Afrique, et va permettre à ce que le Congo réclame quoi que ce soit sur l'échiquier international et qu'on prenne au sérieux les responsables du pays. Mais nous ne devons pas perdre de vue que nous avons des problèmes de gestion dans notre pays. Et cela ne peut pas empêcher d'élever les grandes options s'il faut le faire. Et c'est là où nous nous trouvons. Moi, je vais dire encore une chose. Sur la privatisation ou
la libéralisation
du secteur. La libéralisation du secteur, ok, le sénateur honorable Kalamba, je viens de le souligner, il y a Kokobola, on est en train de faire dans le banc de nous qu'on a échoué. Et il y a Katende qui est en chantier au Kasaï occidental. Il faut que le gouvernement pense à ce qu'il y ait deux principes, l'appropriation et la gestion basée sur le résultat. Il faut que la province du Kasaï occidental s'approprie de la construction de Grand Katende pour que les choses marchent convenablement. Cela veut dire au clair qu'il faut que la province ait les moyens de contrôle à mettre sur pied afin que les choses se réalisent convenablement. Et d'ailleurs, j'irai plus loin pour dire qu'il serait mieux que les législateurs et que l'ensemble des institutions puissent concéder aux provinces, donc aux entités décentralisées bénéficiaires de projets, la possibilité tant financière que juridique de contrôler tout ce qui se fait. Le contrôle in situ est encore mieux que les gens qui se déplaceraient de Kinshasa, soi-disant experts, et qui descendent sur le terrain pour ne rien faire. Voilà là où se trouvent les problèmes. Donc nous avons des problèmes de gestion, nous avons des problèmes de conduite des affaires, et cela ne peut pas nous empêcher de réclamer notre grande police.
Merci, ingénieur Kendi. Bienvenue, Marie Bakoumania. Je rappelle que vous êtes directeur de rédaction en charge de l'économie et de l'investigation au groupe de presse Mediaset. On va prendre pour vous aussi cette réaction qui nous vient de Goma, au Nord Kivu.
Le bon vote, je vous appelle depuis Goma, en province du Nord Kivu. Je pense que si les entreprises publiques congolaises ne prêtent pas bien, c'est parce qu'elles détiennent, disons pour la plupart, le monopole de la production et services. La libéralisation de la SNEL amènerait celle-ci à vouloir faire mieux pour chercher à satisfaire ses clients et de cesser à rivaliser avec ses concurrents. Et cela profiterait aux consommateurs ou à la population congolaise. J'estime que si l'État congolais se soucie de la population et est conscient de la piètre prestation de la semaine, l'État ne tarderait pas de rendre effective la libéralisation de la semaine.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bienvenue, Marie Bakoumania, cet auditeur, et pour la libéralisation du secteur hydroélectrique.
Oui, moi, je suis tout à fait d'accord qu'on libéralise le secteur de l'électricité. Le code de l'électricité est un chantier au niveau du Parlement. Je pense même qu'il a déjà été adopté, voté au niveau du Sénat. Les sénateurs me contredira peut-être. Mais je pense qu'il y a une certaine confusion dans la tête des gens. Quand on parle de libéralisation dans la tête des Congolais, des dirigeants congolais, je préfère le dire ainsi, on a en tête le dépeçage de la SNEL. C'est là que l'opinion ne suit pas. L'opinion ne suit pas que on fasse comme on a fait à la Gécamine, on a distribué des petits morceaux à gauche et à droite. Les gens l'opinion congolaise ne voudrait pas que l'on fasse la SNEL, ce qu'on a fait à la Gécamine.
Mais certains observateurs pensent même que ça serait précipiter le déclin de la SNEL,
Absolument, ce serait le problème. Je pense que le vrai diagnostic, il faut plutôt le poser là où il faut le vrai problème de la SNEL, c'est la gestion. L'ingénieur Kandi, je crois,
Kandi
l'a effleuré. J'aurais souhaité qu'il insiste. C'est un problème de gestion. La SNEL a un vrai problème de commercialisation. Observez seulement ici dans la ville de Kinshasa, il y a des quartiers où depuis que les gens consomment de l'électricité dans ces quartiers, il n'y a jamais eu de facturation de la SNEL. Un courant que la SNEL est produit par Inga qui pourrait revenir à 13 cents, mais ça devait attirer du monde. Mais si, pourquoi est-ce que le monde ne vient pas? Pourquoi est-ce que les gens ne se bousculent pas? C'est simplement parce qu'ils estiment que en face, il n'y a pas une bonne gestion. Madame, il y a sous peu, c'est nous qui fournissions de l'électricité au Congo-Brazzaville, tout comme à la Zambie. Mais à ce jour, c'est le contraire. Le Congo-Brazzaville nous fournit de temps en temps de l'électricité et la Zambie également nous fournit de l'électricité du côté du Katanga. C'est de montrer comment Inga 1 et Inga 2, contrairement à ce qu'un auditeur avait dit tout à l'heure, ne couvrent pas les besoins de toute la République. Les besoins de la République sont estimés à plus ou moins 8000 mégawatts. Mais aujourd'hui, on ne peut pas prétendre produire autant de mégawatts à Inga 1 et Inga 2. Parce qu'on en avait également parlé et que ça participe également de la volonté des libéralisations. Il y a des privés qui sont présents là-bas, avec par exemple Congo Énergie. Ils sont en train de réhabiliter des turbines. Si on peut, d'une manière ou d'une autre, procéder à des partenariats publics-privés du genre, on peut arriver à construire, à réhabiliter Inga 1 et Inga 2 complètement. Et en deuxième lieu, à travers toujours des partenariats publics-privés, moi j'avais personnellement salué l'initiative BHP Militante parce que en réalité, ça remettait les leaderships de la constitution d'Inga III à la République démocratique du Congo, parce que pour moi, Questor, c'était une vraie escroquerie par rapport à la RD, vis-à-vis de la RDC, vis-à-vis des autres des États de la sous-région qui avaient souscrit à ce projet. Si on avait laissé le projet Bèche-Pébiliton progresser, je pense qu'on n'aurait même pas toutes ces difficultés aujourd'hui et on aurait orienté, comme je l'avais dit auparavant, on aurait orienté tous les partenaires qui voudraient bien venir avec nous, on les aurait orientés sur le projet Grand Inga. Mais nous n'avons pas été, nous n'avons pas managé ce projet comme il se devait. Le partenaire a pris la poudre d'escampette. Mais vous comprenez, madame, l'inquiétude aussi sur Kakobola et Katende, ce sont des inquiétudes fondées. Mais dernièrement ici à Kigali, on a suivi, le ministre Kitebi a signé des accords sur un financement additionnel d'Exim Bank India en faveur de ces deux projets. La question de leadership, madame, comme on peut le constater, tout comme la question leadership et gestion, ce sont de vrais problèmes qui se posent à la SNEL et ces questions ne peuvent trouver des réponses que lorsque nous aurions pris conscience qu'il faut prendre les meilleurs de nos fils capables dans les secteurs pour qu'ils puissent les conduire à des destinées meilleures. Merci. C'est à ce moment-là qu'on peut espérer résorber ce problème.
Merci, bienvenue Marie Wakumania. Sénateur Emery Kalamba, est-ce la libéralisation est un gage d'amélioration du taux d'accès et de la qualité de l'électricité en RDC?
Oui, moi je crois aux vertus de la concurrence. Je pense que en fait cette concurrence devrait profiter aux consommateurs, même si je suis convaincu également qu'il faut que l'État, étant donné que l'électricité étant un secteur important, stratégique même, je crois que l'État doit quand même rester dans le domaine pour jouer donc son rôle de pouvoir régulateur.
Merci, sénateur, ingénieur Kenzi. Certains analystes estiment que la libéralisation du secteur n'est pas suffisante à elle seule pour améliorer le taux d'accès à la qualité du courant électrique, à l'accès à la qualité du courant électrique. Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais bien sûr que oui, il faut la libéralisation, mais ça ne doit pas être une libéralisation qui va dépouiller l'État de ses prérogatives. Je crois que le pays, l'État doit continuer à réglementer cette matière qui est l'électricité. De ce fait, l'État doit toujours être concerné et la libéralisation à côté, le partenariat public-privé, et l'ensemble va donner la solution. Parce qu'au moment où nous trouvons la SNEL est incapable de construire des centrales, là où il a des centrales thermiques, il est clair qu'on trouve d'autres partenaires qui peuvent produire le courant moins cher qui est l'hydroélectricité. Alors à ce moment-là, il n'y a pas moyen de contourner la question. Elle est là, elle est valable, elle est absolue, il faut y aller.
Merci, ingénieur Kendi. Nous considérons cela aussi comme votre conclusion. Il nous reste moins de d'une minute pour mettre fin à cette émission. Bienvenue, Marie Wakumania. La libéralisation du secteur hydroélectrique pourrait-elle avoir un impact dans la desserte du courant électrique en RDC?
Oui, absolument. Il y aura un impact certain. On n'a qu'à voir ce que la libéralisation du secteur des télécoms en produit. Ce qu'il faut encourager, c'est que les privés viennent se mettre à côté de l'opérateur public. Il ne faudrait pas que les privés viennent tel des charognards dépecer l'opérateur public et dire que ça va s'améliorer. Si on procède de cette manière, ça ne s'améliorera pas.
Merci. Bienvenue, Marie Wakumania. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Guy Mathé, Alain et Rung, sous la supervision de Pélé, Kip et Lamondo, qui m'ont aidé à préparer et réaliser cette émission. La mise en onde était assurée par Alain Goy, à la présentation Kéline Côté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Rediffusion demain 4h15 heure de Kinshasa. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.